This episode is brought to you by Shopify. Forget the frustration of picking commerce platforms when you switch your business to Shopify, the global commerce platform that supercharges your selling wherever you sell. With Shopify, you'll harness the same intuitive features, trusted apps, and powerful analytics used by the world's leading brands. Sign up today for your $1 per month trial period at shopify.com/tech, all lowercase. That's shopify.com/tech.
Hey there! Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower-than-low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.
Salut, moi c'est Alice Vacher et dans l'empreinte, j'essaie de comprendre comment les marques s'engagent et agissent concrètement dans la transformation positive de notre société. Mon objectif est simple, décortiquer et mettre en lumière les initiatives sociales et environnementales des entreprises pour vous inspirer et vous éclairer sur ces sujets. Allez, c'est parti! Dans ce nouvel épisode de L'Empreinte, j'ai le plaisir de recevoir Anita Devoisin, la directrice de l'entrepreneuriat à Centrale Supélec, la deuxième meilleure école d'ingénieurs de France, et qui s'est donnée pour mission de former des ingénieurs généralistes capables d'appréhender la complexité du monde. C'est beau ça?
Oui, c'est très beau. Bonjour Alice.
Je suis ravie de t'accueillir. Moi, je suis ravie de t'accueillir. C'est la première école que nous avons. Et voilà, c'est un vrai manque pour L'Empreinte. Donc, je suis ravie que tu sois avec moi.
Oui, tout à fait. Mais en fait, Centrale Supélec est une école d'ingénieurs qui a été toujours tournée vers le monde de l'entreprise. Elle est née au milieu du 19e siècle et elle a en fait attaqué tous les grands enjeux industriels de développement de ce monde. Et maintenant, effectivement, on est à un moment de transition important sur lequel une école d'ingénieurs a un vrai rôle à jouer. Et donc, on essaie de former l'ensemble de nos étudiants à pouvoir appréhender ces enjeux et les adresser et pouvoir justement être acteurs de la transition pour demain.
D'accord. Et alors finalement, comment est-ce que vous y prenez? J'imagine que ces dernières années, il y a une certaine accélération de ces sujets-là. Est-ce que c'est venu, de vous ou ça a été vraiment une demande des élèves ou les deux?
Les deux. Je pense qu'effectivement, il y a une grosse attente des élèves qui est de plus en plus forte. Et on l'a vu, il y a eu pas mal d'éléments qui ont été remontés de la part des élèves de différentes écoles. Donc, il y a une grosse attente de cette génération. Et donc, à nous d'être à la hauteur, de répondre à leurs attentes et de pouvoir leur offrir les moyens, justement, d'embrasser les challenges qu'ils souhaitent soulever. Ça, c'est le premier point. En parallèle, évidemment, on a aussi pas mal de labos de recherche, des enseignants-chercheurs qui sont sur ces sujets depuis très longtemps, qui travaillent sur ces sujets et qui, eux-mêmes aussi, apportent une vision des innovations, des solutions par rapport à ces sujets et sur lesquels, nous, en tant qu'école, on appuie l'innovation à vocation sociétale. Donc, je dirais que c'est vraiment un croisement des deux éléments. Évidemment, au départ, on pouvait le faire un petit peu de manière incrémentale et on est en train d'essayer d'accélérer ces éléments-là et de changer un petit peu l'ensemble du rapport par rapport à la formation même qu'on offre aux élèves.
Et c'est quoi la formation aujourd'hui finalement?
Alors, la formation, c'est un cursus le même que. Enfin, c'est un cursus en 3 ans, hein, qui est post après la prépa. En 3 ans, c'est une formation d'ingénieur généraliste, donc qui est capable vraiment d'aller dans tout type de secteur, d'appréhender tout type de problématiques, ça c'est important. Et puis, en fait, ce qu'on essaie d'amener aussi, c'est finalement pas mal d'axes sur la complexité, les prises de décision, savoir analyser justement une empreinte carbone, etc. On est en train de travailler sur tout ce qui est circularité des process, éco-conception. C'est ce genre de concept qu'on amène petit à petit dans la formation et qu'on avait peut-être moins auparavant.
Et d'agilité peut-être aussi à s'adapter au métier de demain, j'imagine.
Oui, alors ça, c'est très important. Et d'ailleurs, souvent, on essaie de la manière dont on dit les choses dans l'école, c'est qu'on forme des ingénieurs entrepreneurs. C'est un terme assez spécial. Mais pourquoi on est très attaché à ce terme? C'est qu'on souhaite justement former des ingénieurs qui sont capables d'entreprendre, d'innover, parce qu'on sait qu'ils vont être dans un monde complètement disrupté, sur lequel il faut complètement réinventer les modèles. Et donc, nous, ce qu'on doit leur apporter, c'est à la fois des compétences clés, techniques, mais aussi des compétences de savoir-être et de pouvoir adresser ces nouveaux enjeux, de comprendre la complexité de ces enjeux et de pouvoir les adresser ensuite de la meilleure manière qui soit. Donc, on essaie vraiment de former des ingénieurs qui sont capables de détecter des besoins, des problèmes, de les adresser et d'apporter des solutions.
Et est-ce qu'il y a je sais pas si on dit des matières ou des activités qui ont changé, qui ont disparu dans votre école ?
Alors, qui ont disparu, non, mais qui se sont transformés, oui. Typiquement, on a un laboratoire sur tout ce qui est combustion. On est sur des enjeux maintenant, justement, de combustion avec une faible empreinte carbone. Donc, c'est ce genre de choses qu'on regarde. Ce qu'on essaie aussi d'apporter, et c'est là, ça fait le lien avec l'innovation que je porte, en fait, on a développé un programme qui s'appelle 21st au sein de l'école. C'est notre programme d'innovation et d'aide à l'entrepreneuriat pour l'ensemble de nos élèves et aussi des entrepreneurs existants qui souhaitent se reconnecter à un écosystème comme Central Supélec pour développer leur start-up, leurs innovations. Et en fait, pourquoi on l'a appelé 21st ? En fait, tout simplement en lien avec le 21e siècle pour justement adresser des grands enjeux. Et on a notamment une verticale qui s'appelle climat et biodiversité. Et la manière dont on essaie d'apporter du changement au sein de 21st, c'est justement par les partenariats qu'on estime clés pour aborder ces sujets. Et on a fait notamment un partenariat avec AgroParisTech, donc deux écoles très différentes, mais très complémentaires sur le sujet justement climat-biodiversité. Et ça apporte vraiment des apports très, très complémentaires. Ce qui est, de mon point de vue, ce qui était important pour des études d'ingénieurs, c'était d'apporter aussi une compréhension du vivant et de ne pas être uniquement dans la technique, la mécanique, mais d'apporter aussi une compréhension du vivant. C'est plus que jamais nécessaire en ce moment. Et donc, d'avoir comme ça une conjonction des deux réseaux, ça nous permet justement d'aller sur des thématiques assez fortes avec un écosystème de recherche de chaque côté, dans chaque école, très, très complémentaire.
Et est-ce que justement, entre chaque école, vous partagez un peu vos savoir-faire, vos expériences pour inspirer les autres et engager un peu tout le monde ?
Oui, alors c'est complètement l'idée. Typiquement, là, actuellement, on accompagne des startups qui sont sur des sujets, par exemple, de décarbonation, etc. Et en fait, elles sont co-accompagnées. Elles ont à la fois des liens avec nos laboratoires au sein de Central Supélec sur certains enjeux par rapport à leur développement. Et puis, elles ont également des liens avec ce qu'on appelle les in-labs chez AgroParisTech. Ils ont 5 in-labs qui sont sur des thématiques. Donc, le Farm in-lab sur tout ce qui est justement agriculture. Ils ont le Food in-lab sur tout ce qui est thématique nourriture, le Forest in-lab sur la forêt, etc. Et ce sont des lieux d'innovation dans lesquels il y a à la fois les étudiants, les chercheurs, etc., qui sont accessibles, du matériel, des infrastructures. Et donc, nos projets, par exemple, on a un projet qui est en train de développer un robot d'irrigation qui permet justement de réduire les besoins en eau pour irriguer les grandes cultures. Ce projet est accompagné de notre côté pour la partie intelligence artificielle du côté Central Supélec et en parallèle fait des expérimentations chez AgroParisTech dans son Farming Lab directement dans les exploitations à disposition pour ce projet.
Et donc, in fine, comment aujourd'hui, parce qu'en fait, il y a différents niveaux d'engagement des écoles. Et j'ai l'impression qu'il faut quand même qu'on accélère la formation de tous les élèves, pas que des ingénieurs, hein, sur ces sujets-là. Est-ce que vous avez un pouvoir d'influence en tant que deuxième école de France ou pas, enfin, deuxième école?
Oui, oui. Je pense qu'on a un pouvoir d'influence. En tout cas, moi, je suis exceptionnellement convaincu du pouvoir d'influence qu'on a à titre individuel ou à titre
d'acteur de notre... On est tous influenceurs de quelqu'un.
Exactement. Et donc, je pense qu'il y a quand même beaucoup de mimétisme dans les pratiques humaines. Si plusieurs écoles se mettent à embrasser ces sujets, commencer à les adresser de manière assez importante, ça va certainement faire des émules dans d'autres écoles. Mais on n'est pas les seuls. Hein. Je pense qu'il y a quand même une prise de conscience générale de l'ensemble des écoles en ce moment. Les écoles de commerce ont pas mal de choses à repenser aussi. Je pense que ça peut être intéressant un jour que tu invites une école de commerce. Hein, mais par exemple, nous, on travaille aussi beaucoup avec l'ESSEC qui a vraiment...
Très engagé l'ESSEC, hein, je crois.
Oui,
bien.
Exactement. Qui a vraiment mis la thématique développement durable au niveau de ses axes stratégiques. Donc, c'est vraiment un axe stratégique fort pour l'ESSEC. Ils sont en train de travailler sur ces éléments-là. Donc, les écoles de commerce ont un chemin à faire. Les écoles d'ingénieurs ont également pas mal de choses à apporter sur ce sujet. Quand on parle d'éco-conception ou même de low-tech, moi, j'aime bien la thématique du low-tech. En fait, le low-tech, c'est finalement parfois très complexe. Et finalement, un ingénieur a toute sa place dans le développement d'un produit low-tech. Donc, on n'est pas toujours sur du... C'est pas parce qu'on est ingénieur qu'on est toujours sur des produits qui nécessitent beaucoup d'électronique ou beaucoup d'intelligence artificielle, etc. Évidemment, on en fait. Mais sur de l'éco-conception de produits et de solutions low-tech, et on a des projets qui sont low-tech au sein de notre accélérateur, il y a une complexité à maîtriser. Et là, l'ingénieur a un rôle à jouer. Voilà, donc oui, je pense que toutes les écoles sont en train de prendre la mesure de ces enjeux. Et puis, ce sont encore une fois des attentes de nos élèves. Donc, à nous d'être à la hauteur et de leur apporter les éléments pour leur formation, parce qu'eux vont être aux commandes demain. Ils ont besoin des clés et de la formation. Ils vont être capables, justement, d'avoir la formation nécessaire pour adresser ces sujets.
Et justement, on voit que les étudiants doivent devenir agiles, mais j'imagine que les écoles aussi, puisqu'il y a des nouveaux métiers qui émergent constamment, donc une demande de formation sur ces nouveaux métiers. Donc, j'imagine que chaque année, vous devez revoir les programmes.
Alors, oui et non. On essaie d'avoir un programme quand même relativement fixe, qui est vraiment le corps de l'apport qu'on leur apporte, encore une fois, de la formation qu'on leur apporte. Et en parallèle, effectivement, on a tout un axe de projets sur lesquels ils peuvent s'investir. Et c'est là qu'on va pouvoir amener beaucoup de nouveautés, beaucoup d'innovations dans la manière dont ils vont pouvoir s'impliquer dans des projets. Et je pense que là où la France, jusqu'à présent, a beaucoup été dans une culture d'éducation assez descendante ou avec un cours professoral, etc., on est en train de mixer de plus en plus une approche parfois peut-être un peu plus anglo-saxonne, même si j'aime pas les stéréotypes, parce qu'il y a du bon dans les deux systèmes, encore une fois. Mais c'est vrai qu'on apporte aussi un peu beaucoup de modes projets, et c'est là-dedans qu'ils vont pouvoir justement choisir les thématiques qui les intéressent, qui les motivent, que ce soit en santé, sur des thématiques environnementales, etc. Et ils vont pouvoir développer des projets et comme ça, pouvoir justement développer un certain nombre de compétences. Donc, effectivement, on amène de la flexibilité par ce biais-là, mais on essaie quand même de continuer de leur donner un socle un petit peu solide, parce que ça va leur servir pour toute leur vie.
Et j'imagine que vous avez aussi des partenariats avec des entreprises ou des choses comme ça. Est-ce que vous sélectionnez aussi les entreprises partenaires en fonction de leur éthique ?
Alors ça, c'est une grande question et un grand sujet qui revient très fréquemment dans les discussions à l'école. Comment on choisit nos partenaires ? Effectivement, on a 140 partenaires entreprises, donc on a de quoi faire. Ce qui est sûr, c'est que désormais, on travaille avec l'ensemble des partenaires entreprises. En revanche, par exemple, si on développe des sujets de recherche avec eux, entre nos labos et ces partenariats entreprises, on veut que ce soit des sujets de recherche qui sont en lien avec les valeurs et avec l'éthique de l'école. Ça, c'est important.
Donc, il n'y a pas d'exclusion. Il n'y a pas de politique d'exclusion.
Il n'y a pas de politique d'exclusion. En revanche, sur les sujets sur lesquels on va travailler, si on estime qu'ils rentrent dans les valeurs et dans l'éthique de l'école et dans les grands enjeux stratégiques de l'école, là, oui, c'est un sujet sur lequel on peut les accompagner. Si ce sont des sujets qui nous paraissent aller contre ces éléments-là, pour le coup, on ne fera pas de collaboration sur ce sujet en particulier. Voilà. Pour l'instant, on le traite de cette manière-là. Et ce qui est sûr aussi, et ils le ressentent, c'est que nos élèves... il y a une question de marque employeur aussi pour ces entreprises. Et les ingénieurs en France actuellement sont une denrée rare. Ils sont difficiles à recruter, donc ils ont le choix. Tant mieux pour eux. Mais les entreprises, justement, doivent justifier un certain nombre d'engagements pour pouvoir attirer ces profils désormais. Donc, c'est important pour eux aussi de pouvoir travailler en amont au sein des écoles lors de projets comme ça, entreprise-élève, et de comprendre un peu mieux cette génération, de les mettre justement sur des projets de transition qu'ils ont eux-mêmes dans leurs entreprises. Et c'est comme ça aussi qu'ils peuvent motiver après ces élèves à les rejoindre une fois qu'ils seront en recherche d'emploi.
Oui, et puis vos élèves peuvent transformer aussi ces entreprises.
Donc, Je pense qu'ils vont le faire de toute façon.
En fait, en les formant bien, cette génération, bien de les implémenter,
exactement.
Et de faire émerger des bonnes idées. Moi, de toute façon, je pense qu'on partage le même point de vue pour l'inclusion de tout le monde et la transformation que l'exclusion est.
Exactement.
Voilà, je pense qu'aujourd'hui, de toute façon, on n'a plus le choix. Il faut de l'argent aussi pour cette transition. Donc, il faut des grosses entreprises qui ne sont pas toutes...
Exactement.
Voire pour certaines cata quand même. Mais du coup, il faut les transformer.
Les deux modèles sont hyper importants. Nous, on travaille un peu plus sur l'innovation et l'entrepreneuriat. Donc, évidemment, on va accompagner beaucoup de start-up qui veulent être « impact by design », entre guillemets. Donc, dès l'amont, dès leur réflexion, leur sujet d'activité... Elles réfléchissent impact et elles veulent développer vraiment un sujet qui aura un fort impact. Mais en revanche, on a aussi évidemment toute une catégorie d'élèves qui vont rejoindre des entreprises. Et donc, eux vont tout simplement être acteurs du changement au sein d'entreprises et révolutionner, changer les modèles un petit peu à l'intérieur même des entreprises. Et c'est ces deux profils qu'on essaie d'accompagner au mieux. Mais c'est vrai que moi, je suis assez positive, en fait, je ne minimise pas du tout l'ampleur du challenge qui nous est amené. il est important. En revanche, je suis très positive parce que je suis au quotidien tous les jours de cette génération-là. Et on a vu une évolution assez drastique, notamment sur les projets d'entrepreneuriat. Ça fait 4 ans que je suis à Centrale Supélec. Entre la première année et cette année, le nombre de projets d'entrepreneuriat qui sont portés par nos élèves et qui sont sur des sujets à thématiques fortes d'un point de vue impact a complètement explosé.
Donc, en même temps, c'est aussi là qu'il y a les investissements de beaucoup de boîtes. En fait, aujourd'hui, finalement, c'est répondre à une demande que de s'engager sur ces sujets-là.
Alors oui, c'est vrai, mais pour le coup, je ne sens pas forcément l'opportunisme financier.
Je suis complètement d'accord avec toi, mais justement, ce que je trouve...
Il y a un alignement des planètes.
C'est que finalement, alors c'est génial, je ne sais pas, mais ça veut dire qu'il y a un vrai besoin, et ça, c'est moins génial, parce que voilà. Mais c'est aligné, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on ne s'engage pas... même des personnes moins convaincues, on peut les engager, parce qu'en fait, c'est quand même là où il y a des opportunités.
Ouais,
donc,
bien
in fine,
exactement.
Ça va aller plus vite quand même.
Non, mais tout à fait.
Et c'est quoi alors tes perspectives pour la suite?
Alors, nos perspectives pour la suite. Alors déjà, on accompagne plus d'une centaine de projets de l'idéation. Il y a des projets qui sont encore très jeunes, jusqu'à des vrais projets qui sont en phase de scale, donc de changement d'échelle. Donc, on a vraiment tout type de maturité au sein de nos différents programmes, parce qu'on accompagne à la fois des élèves, mais pas que. On accompagne aussi des entrepreneurs qui ont 30, 40, 50 ans, qui lancent leur start-up et qui souhaitent être reconnectés à un écosystème académique, parce que c'est vrai que ces écosystèmes sont d'une richesse assez exceptionnelle. Il y a à la fois des talents, mais il y a aussi justement de la recherche, des expertises, des labos, de l'infrastructure, un réseau aussi. Les réseaux d'alumni permettent justement, quand on développe une entreprise, d'avoir accès en termes de développement business à pas mal d'entreprises, clients de potentiel. Donc, c'est tout ça qu'on essaie d'apporter pour des projets qui portent des enjeux importants sur la thématique climat, biodiversité. Et donc, cet ensemble, on accompagne actuellement à peu près une centaine de projets sur l'ensemble de ces maturités. Et nous, notre objectif et notre volonté, c'est qu'on a fait un premier partenariat avec AgroParisTech, avec lequel on co-accompagne, et on voit la force de mixer deux réseaux comme ça. C'est juste incroyable. Et par ailleurs, par rapport à la complexité des enjeux qu'on adresse, plus on va mixer des compétences différentes, plus on ira vers des solutions qui répondent vraiment d'une manière assez efficace. Donc, notre ambition, c'est aussi de continuer avec d'autres partenariats, d'autres écoles, et d'avoir comme ça une espèce de coalition d'acteurs académiques qui mixent leurs différents réseaux pour justement accompagner des entrepreneurs qui se saisissent d'enjeux importants. Donc voilà un petit peu l'ambition qu'on a à court terme. Et puis d'amener justement comme ça, de remixer un peu les matières. Moi, je suis toujours... jusqu'au 19e siècle, en fait, les grands scientifiques étaient souvent aussi philosophes. Et puis, on a commencé à séparer un petit peu les disciplines. Je pense que c'était potentiellement une erreur. Et donc, je suis ravie maintenant, par exemple, avec AgroParisTech, on ramène le vivant vers des ingénieurs. C'est important. Et donc, maintenant, si on bâtit un nouveau bâtiment, de facto, on va prendre en compte l'écosystème vivant autour. C'est ça qu'on doit faire désormais. Et donc, l'objectif, c'est justement d'essayer d'amener d'autres partenariats avec d'autres compétences qui amènent d'autres types d'approches.
Est-ce que tu aurais envie d'acheter des choses qu'on n'a pas vues ensemble? Parce que je trouve qu'on a fait un beau tour, mais comme c'est des sujets un peu nouveaux pour moi, finalement, si tu as d'autres choses à ajouter, moi, je suis preneuse.
Non, peut-être une chose sur laquelle aussi on ne peut que mieux faire et on a encore beaucoup d'espoir, c'est finalement que jusqu'à présent, je pense qu'en France, peut-être en Europe, mais pas dans tous les pays européens, mais en France en tout cas, on était peut-être un peu en retard par rapport au monde anglo-saxon ou même à Israël sur la connexion entre la recherche et l'innovation, c'est-à-dire la capacité à sortir des éléments de nos labos pour en faire des innovations de marché. Et c'était deux mondes qui avaient parfois du mal à se parler, la recherche publique avec le monde de l'entrepreneuriat, de l'innovation. Ils se sont toujours parlé, mais c'était moins fluide peut-être que dans d'autres éléments. Et là, on est en train depuis quelques années aussi, il y a une accélération très forte en France avec une forte volonté du gouvernement de la BPI d'accélérer ces sujets, du ministère aussi de l'éducation, et de l'enseignement et de la recherche qui a vraiment la volonté d'accélérer ces sujets. Et donc, désormais, l'innovation est une troisième mission pour les écosystèmes académiques. Donc, il y a l'enseignement, la recherche et désormais l'innovation. Troisième mission, c'est affiché. Et c'est super important parce que plus que jamais, je pense que ces écosystèmes peuvent avoir un effet assez important sur la société et sur les problématiques qu'on vit actuellement.
Bah écoute, merci.
Voilà, donc je suis ravie parce que c'est en train de vraiment changer. On est en train de voir un écosystème de recherche qui, de plus en plus, se mêle avec l'écosystème de l'innovation.
Ouais, et puis les écoles, c'est ce qu'on disait avant, hein, c'est un pilier. Hein, on a besoin de la jeune génération pour nous aider à transformer le monde.
Exactement.
À rattraper quelques bêtises. Hein.
Voilà.
Pas trop de pression sur leurs épaules.
Non.
Non, juste un
ils ont envie de faire, tout simplement.
Oui, un joli challenge. Exactement. Et tout à construire.
Exactement.
Donc, merci beaucoup.
Voilà. Merci Alice. Merci de m'avoir reçue.
Merci à vous d'avoir écouté cet épisode. Vous pouvez retrouver l'ensemble des épisodes sur toutes les plateformes de podcast. N'hésitez pas à liker, partager, mais aussi commenter le podcast. Un grand merci pour tous vos retours d'ailleurs, nous les lisons avec intérêt et ils nous sont très utiles pour continuer à nous améliorer. À très vite dans l'empreinte.